Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews culture et histoire de Timeline, en partenariat aujourd'hui avec le Salon Histoire du Livre à Versailles. Je reçois avec le plus grand des plaisirs Jean-Christian Petit-Fils, historien évidemment multiprimé. Je ne vais pas faire la liste de tous les livres, on n'aurait pas assez de temps. Je vous reçois pour le Saint-Suaire de Turin. Bonjour Jean-Christian.
Bonjour.
Avant de commencer, votre amour de l'histoire est venu quand, Jean-Christian Petit-Fils ?
Ah, très très tôt, à 7-8 ans, mon père me poussait, me racontait des histoires de Napoléon. Et puis à 13 ans, j'ai lu les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, toute la série de Dumas, 20 ans après, le Vicomte de Bragelonne. Et c'est là que je suis tombé dedans, si je puis dire. Et j'ai fait des recherches sur les personnages traités par Dumas. J'ai écrit un livre sur le véritable D'Artagnan, sur le masque de fer, etc. Et en même temps, en parallèle, j'ai fait des études aussi de sciences politiques, d'histoire et de gestion d'entreprise. Voilà.
Alors, l'historien est un détective, évidemment, un chercheur, un détective. Là, on va parler d'un mystère historique. Ce n'est pas un roman. On est bien d'accord. Vous êtes, c'est la synthèse, et j'insiste sur le « la », c'est la synthèse sur l'histoire du Suaire de Turin.
Oui, absolument. Ce n'est pas du tout un roman. C'est un livre de recherche, une enquête historique, archéologique, scientifique, qui cherche donc à saisir tous les multiples aspects de ce grand mystère, parce que je me suis passionné aussi beaucoup pour les mystères de l'histoire.
Exact.
Le masque de fer, l'affaire des poisons, l'assassinat d'Henri IV. Et celui-là, ça fait 44 ans qui me fascine. J'écris beaucoup. J'ai écrit une annexe dans mon livre sur Jésus. Donc je me suis passionné pour les mystères de l'histoire en particulier. Et en écrivant mon livre sur Jésus, je suis évidemment... j'ai traité cette histoire du linceul de Turin, mais je m'y intéresse depuis 1978.
Ah oui, ça fait plus de 40 ans.
Voilà, 44 ans. Parce que c'est le mystère des mystères. Alors, je précise tout de suite que ce n'est pas une question de foi, une question de foi religieuse. C'est un mystère historique qu'il faut résoudre. Est-ce que cela seul a bien été celui qui a enveloppé le corps de Jésus de Nazareth au soir de sa mort, le 3 avril de l'an 33, puisque c'est la date aujourd'hui certaine de sa mort. Et là... il y a eu bien sûr énormément de discussions, de controverses à ce sujet. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de foi. Et cela seul serait-il un faux, comme certains ont prétendu le démontrer, que ça ne changerait pas du tout pour les croyants, quoi que ce soit, de la passion et de la résurrection du Christ. À tel point qu'en 1934, il y a eu d'autres faux suaires, et notamment un qu'on appelle le suaire de Cadouin, dans une abbaye du Périgord, qu'on vénérait tout au long du Moyen-Âge, qui était d'ailleurs presque plus célèbre que le suaire de Turin à un moment donné, avec de grands pèlerinages, des indulgences accordées. Il y avait même le roi Philippe VI de Valois à donner des subventions à cette abbaye, donc c'était absolument prodigieux. Et puis en 1934, on a examiné ce grand linge et on s'est aperçu qu'il y avait des inscriptions sur ce linge et c'était en écriture koufique, donc en arabe, et à la gloire de l'émir Al-Mustali. Bon, donc c'était rien à voir avec le linceul de Jésus. Et depuis ce temps-là, évidemment, on l'a vite rangé dans les placards. Mais il y a encore aujourd'hui des gens qui disent que ça serait bien si on pouvait retrouver notre suaire, qui est le suaire de Cadouin. Bon, c'est une petite parenthèse, mais il y en a eu d'autres. Il y avait le suaire de Compiègne, où il n'y avait pas de corps reproduit, qui a disparu au 19e parce que une lavandière trop empressée l'a mis dans un bain d'eau et de soude et que le linge a dissous et a disparu. Voilà. Mais bon, c'était un faux aussi. Il y a eu le suaire de Besançon qui aurait brûlé au moment d'un incendie de la cathédrale. Donc tout ça pour vous dire que finalement, ce n'est pas une question de foi, c'est une question d'histoire, c'est une question de science. Mais s'il est authentique, et là, moi, je suis absolument convaincu qu'il est bien authentique, évidemment, ça pose des questions pour les croyants et ça peut gêner certains incroyants, disons. Alors, Solange, au fond, sur le plan historique, nous n'avons pas de certitude. Voilà. En revanche, nous avons une certitude sur le plan scientifique. Sur le plan historique, en effet, il y a un trou historique qui s'étend du 3 avril de l'an 33, ou du 5 avril de l'an 33, si vous voulez, au moment de la résurrection de Jésus, et lorsque Pierre et Simon-Pierre, donc le chef des apôtres, et puis Jean, l'évangéliste, se précipite au tombeau à la suite de l'arrivée de Marie-Madeleine en disant « on a enlevé le corps de Jésus ». Il se précipite au tombeau et il voit, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le linge affaissé, comme si rien n'avait changé, sauf que le corps avait disparu de l'intérieur. Et Saint Jean, dans son évangile, quatrième évangile, écrit qu'il a été saisi et il écrit « il vit et il crut », le disciple bien-aimé, c'est-à-dire il parle de lui-même. Il vit et il crut. Donc avant même les apparitions du Christ, Jean a compris que Jésus était ressuscité et qu'il avait disparu matériellement et qu'il était donc ressuscité corps et âme. De l'an 33 à l'an 387, on ne sait rien véritablement. On a quelques indications à droite, à gauche. On sait qu'il aurait été présenté à Jérusalem, gardé à Jérusalem, qu'il aurait été à Antioche. Mais on n'a pas de certitude absolue. En 387-388, fin 387, début 88, il apparaît dans une petite ville, capitale de l'Osroène, de Mésopotamie, qui est la ville d'Édesse, aujourd'hui Urfa, en Turquie. Et c'est à partir de là qu'on va, des foules vont venir vénérer ce linge qui représente le corps, la face ventrale et dorsale d'un homme mort, crucifié, flagellé, avec toutes les traces de la passion, notamment la couronne d'épines, et puis des écoulements sanguins, un coup de lance sur le côté droit. Tout cela correspond parfaitement aux évangiles. Et donc c'est à partir de cette date, d'ailleurs, qu'il y a un changement très profond qui intervient dans l'iconographie du Christ. On représente Jésus dans les premiers siècles comme un Apollon, selon les canons gréco-latins, un berbe, l'homme parfait, splendide, où on le représente en bon berger portant une brebis. Évidemment, ça nous renvoie au texte évangélique. Mais nous ne voyons pas ce visage d'un homme sémite avec une barbe bifide. Cette barbe bifide, entre parenthèses, elle vient des sévices qu'a subi Jésus dans la maison, probablement dans la maison du grand prêtre. Et nous ne l'aurions pas donc avec ces traces de la couronne d'épines. On le représente donc à partir de cette fin du 4e, début du 5e, eh bien, tel que nous connaissons aujourd'hui toutes les images du Christ. Il y a un chercheur qui s'appelle un biologiste français, Paul Vignon, qui enseignait à la Cato, qui a déterminé qu'il y avait 15 signes caractéristiques qu'on trouve dans l'iconographie entre l'image du sphère de Turin, du linceul, puisque le sphère, c'est un linceul, tout simplement, et ses représentations picturales, graphiques et autres, ou bas-reliefs, etc. Donc là, on voit un carré entre les deux sourcils, il y a un œil, une pommette qui est plus abîmée que l'autre, on voit des traces de coups, on voit une coulée, on voit une mèche ici, vous le verrez sur certains tableaux, on voit une petite mèche. Et en réalité, cette mèche, elle correspond à une coulée de sang qui provient de la couronne d'épines. Voilà. Tout cela, donc, à partir du 5e siècle. Notamment, vous avez les reproductions byzantines. Les médailles de Justinien II nous représentent parfaitement le Christ avec toutes ses caractéristiques au visage. La seule, il va rester à Édesse pendant quelques siècles, puisque c'est seulement le 10 août 944 qu'il est transféré à Constantinople, donc la grande capitale de l'Empire byzantin. Là, il est reçu avec faste. C'est considéré comme, évidemment, un palladium, quelque chose qui permet de glorifier les dynasties byzantines. Mais il est tout de suite enfermé dans l'église du Pharos, c'est-à-dire l'église palatine des empereurs et montrer de façon très très rare au grand public, c'est surtout les princes, les rois, Louis VII, le roi de France, quand il passe à Constantinople, il peut contempler le linceul de Jésus, mais vraiment, il n'y a plus d'ostension. Et puis, on a pensé à un moment donné qu'au moment où les croisés francs sont arrivés à Jérusalem, au moment de la quatrième croisade, cette désastreuse croisade qui en fait a conduit ces croisés qui s'étaient endettés auprès des Vénitiens et qui ont tout simplement pillé, massacré cette magnifique ville de Constantinople, on a pensé que le linceul avait disparu. En réalité, non, on a aujourd'hui la preuve qu'en 1207, il est encore présent dans l'église du Pharos où les principales reliques ont été sauvées, alors que les autres reliques, il y en avait énormément. Moi, j'ai lu des rapports et des comptes rendus de visites de moines russes qui racontent que toutes les églises regorgent de reliques, parce qu'il y a une spiritualité toute particulière orientale qui est lié au culte des reliques. Donc tout cela a été pillé, mais l'église du Pharos n'a pas été pillée, et de sorte que ces reliques étaient conservées à ce moment-là. Jusqu'en 1239, lorsque Baudouin II de Courtenay, l'empereur latin de l'Empire byzantin, à l'Empire d'Orient, va céder la Sainte Couronne à Saint-Louis. Et en 1241, il y aura un nouveau voyage de reliques, parce qu'il est à nouveau à court d'argent. Et dans ce second voyage, il y en aura un troisième. Dans le deuxième voyage, il y en aura un troisième. Eh bien, le Saint-Suaire arrive en France et il est conservé à la Sainte-Chapelle, dans le trésor de la Sainte-Chapelle. Mais il arrive dans une caisse très ancienne, petite caisse, dans laquelle il y a deux choses. D'une part, un portrait qu'on vénérait beaucoup à Constantinople et puis à Édesse, qu'on appelle le Mandilion, qui est en réalité une copie du visage de l'homme du linceul, parce qu'on n'osait pas montrer ce linge couvert de sang et on ne le sortait pratiquement pas, comme je vous le disais. En revanche, on pouvait voir vénérer le Mandilion, qui est une copie du linceul, mais sans les yeux ouverts. Donc c'est un homme qui a les yeux ouverts, qui a en effet tous les traits caractéristiques de Jésus, exactement comme ce qu'on voit sur le linceul. Par contre, il n'y a pas de sang, pas de trace de sang. On voit cette petite mèche des cheveux sur ce Mandilion. Et le Mandilion va rester malheureusement à la Sainte-Chapelle et il disparaîtra avec les révolutionnaires. Une partie de ces reliques de la Sainte-Chapelle échapperont au désastre et au massacre des révolutionnaires. La Sainte Couronne d'épines, bien sûr, et puis un morceau de la vraie croix qui est toujours aussi dans le trésor de Notre-Dame. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Un siècle plus tard, en 1247, très exactement au mois de septembre 1247, j'ai établi la date avec précision, Philippe VI de Valois va faire don du linceul à son porte-étendard, membre du Conseil, donc un personnage très important, un chevalier qui a écrit des traités sur la chevalerie, Geoffroy de Charny. Il ne se rend pas compte. Alors Geoffroy de Charny venait de perdre sa femme. Il voulait construire une collégiale à la gloire et à la vénération de la Vierge Marie. Et Philippe VI de Valois donc, va lui offrir un cheveu de la Vierge prélevé dans le trésor de la Sainte-Chapelle. Et puis ce linge là, qui était là, on ne savait pas très bien ce que c'était. Et donc il lui a fait cadeau de cela, sans vraiment se rendre compte que c'était le sœur de Turin. Philippe VI de Valois, lui, il considérait que l'authentique linceul, il était à Cadouin. Il a même donné, je vous ai dit, de l'argent à l'abbaye de Cadouin pour entretenir la fondation et entretenir les moines qui faisaient montrer ce sœur. Donc, pour lui, c'était... Et Geoffroy de Charny va commencer... on est dans une période très difficile de guerre intestine. Il y a la grande peste qui va éclater en Europe. Il fait construire une église en bois et près de Liré, enfin, dans le petit village de Liré, près de Troyes. Et c'est là que les foules vont commencer à venir vénérer. Et on voit, en effet, là, on montre le linceul, on va adorer le linceul. Et pendant des siècles, il va y avoir... Là, il y a une continuité absolue dans la, sur le plan historique entre ce linceul qui arrive donc en 1347, qui va être montré en 1354-1355. Il y aura quelques difficultés avec l'évêque de Troyes qui va dire bah, c'est une... L'évêque de Troyes, il avait malheureusement il avait besoin d'argent. Il voyait arriver tous ses pèlerins dans le petit village à côté de Troyes et il se désolait parce que la toiture de sa cathédrale s'était effondrée, donc il avait besoin d'argent. Alors il a dénoncé méchamment les chanoines de Liré de faire du trafic et de montrer une fausse relique en disant on connaît le peintre qui a écrit ça. Bon. Ce qui va servir d'argument et de quasiment d'unique argument historique pour ceux qui nient l'authenticité du linceul. En tout cas, Geoffroy de Charny meurt malheureusement à la bataille de Poitiers et le linge va rester quelques années conservé par la famille et puis il sera cédé à la maison de Savoie par la petite fille de Geoffroy, Marguerite. Et à partir de là, la maison de Savoie va montrer le linge, d'abord à Genève, puis à Chambéry. À Chambéry, il y a un terrible incendie en 1532. On le voit d'ailleurs, on voit des traces le long qui épargnent la majorité de la silhouette. Et bien sûr, on voit des trous terribles sur. On le voit même sur la couverture, les traces des trous, des brûlures qui ont été réparées par les Clarisses de Chambéry. Et puis, ce linceul ira donc à Turin, au moment où Turin devient la capitale des États de Savoie. Et il sera cédé en 1983 au Saint-Siège. Voilà sur le plan historique. Donc, sur le plan historique, pas de certitude. Sur le plan scientifique, il y a eu quelque chose d'absolument bouleversant qui s'est passé le 29 mai 1898, lors d'une ostension organisée par la Maison de Savoie, un photographe amateur, mais qui était très connu dans les milieux de la photographie, c'est un avocat de profession, Segondo Pia, a obtenu l'autorisation de faire une photographie, plusieurs photographies du linceul. Donc il est arrivé dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste le soir. Il a eu plusieurs essais qu'on ratait, avec des lumières qui étaient insuffisantes. Et puis, au bout d'un certain temps, une longue exposition, bien sûr, à cette époque, il fallait exposer longuement les objets qu'on voulait photographier. Il est reparti avec ses plaques qu'il a développé donc dans son laboratoire avec la petite lumière rouge, vous savez, et puis le liquide à développement. Et quand il a saisi la première plaque qui représentait le visage de l'homme du linceul, il raconte qu'il a été bouleversé et qu'il a failli lâcher la plaque de verre tellement il était bouleversé. Pourquoi ? Parce que le linceul, en réalité, a les propriétés d'un négatif de photographie. Donc tout ce qui est en noir, en réalité, devient blanc au moment du développement. Négatif sur négatif, ça donne un positif. Donc il a vu apparaître véritablement un visage. Vous verrez dans mon livre, je donne la photographie du linceul tel qu'on peut le voir, avec des taches sombres qui s'éclairent et qui deviennent lumineuses et absolument prodigieuses. Pour tous ceux qui veulent voir, voilà. C'est le visage et le corps de Jésus apparaît qu'en négatif, en réalité. Bon, donc, imaginez que ce soit un faux, ça pose déjà des questions. Il a été beaucoup étudié, ce linceul, par Pierre Barbet, qui était chirurgien à l'hôpital Saint-Joseph. Je vous ai parlé de Paul Vignon. Pierre Barrière, lui, s'est occupé des signes de la passion et il a montré qu'il y avait une correspondance parfaite entre les évangiles et le sphère, sauf à un endroit, c'est l'endroit des clous. Parce que les peintres qui n'ont vu que le visage du Christ, et notamment des reproductions du Mandylion, etc., eux n'ont pas vu le corps en entier. Et Pierre Barbet a constaté que, en réalité, si on voulait enfoncer un clou dans la paume de la main, eh bien, le corps ne pouvait pas tenir et que le corps tombait. Donc, les bourreaux romains avaient parfaitement compris la technique. Il fallait enfoncer le clou dans un petit espace du poignet qu'on appelle l'espace de Desto, professeur Destot. Et là, à ce moment-là, eh bien, le corps tenait. Et d'ailleurs, le pouce se rétractait. Et nous voyons le pouce rétracté sur le linceul. Donc Pierre Barber fait un travail considérable. Ensuite, donc, il y a eu les travaux de Paul Vignon sur l'iconographie, montrant que tout remontait à la fin du 4e et au début du 5e siècle. Et puis, en 1978, il y a une équipe américaine, 33 savants de toutes les disciplines, alors des croyants, des incroyants, des juifs, des agnostiques, pas du tout des catholiques ou des protestants. Enfin, les protestants étaient plutôt sceptiques à l'égard des reliques, vous le savez, depuis le traité des reliques de Calvin. Cette équipe américaine a fait un travail prodigieux. Ils ont pris 6000 clichés. Alors, extrêmement précis, qui n'ont rien à voir avec les clichés de Segundo Pia et même d'Henriet en 1931. Ils ont fait des analyses au rayon X, à l'infrarouge, enfin, sous tous les angles. Ils ont photographié, étudié le linceul pendant 2 jours. Ils sont arrivés avec plusieurs tonnes de matériel. Et ils sont arrivés à la conclusion que ce n'est pas une peinture, ça ne peut pas être une peinture, ce n'est pas un linge qu'on a appliqué sur un bas-relief qu'on aurait badigeonné auparavant de peinture. C'est vraiment une image qu'on ne peut pas la reproduire. C'est simplement un brunissement léger des fibrilles du lin sur une épaisseur de 20 à 40 microns. Donc c'est tout petit, tout très très léger. Et il y a un rapport direct entre la distance entre le corps et le linge, de sorte qu'on a obtenu des images tridimensionnelles. L'image semble être une projection du corps et une projection orthogonale, puisqu'il n'y a aucun effet latéral. On est dans un mystère absolu. Comment l'image s'est-elle produite? Nous ne le savons pas. Ça, c'est une certitude.
Aujourd'hui encore, on ne sait pas la refaire.
On ne peut pas la refaire. Non, on ne sait pas la refaire. Alors, il y a bien sûr quelques rigolos qui disent « Oui, moi, je sais refaire ça. » Et ils vous donnent des photographies absolument minables de choses. Mais ce n'est pas ça. Barbet disait « On voyait la distinction entre le sang veineux et le sang artériel, par exemple. » Donc, c'est vraiment le corps d'un crucifié, flagellé, mort dans les mêmes conditions que Jésus. Si on veut parler d'infos, à ce moment-là, on aurait pris un cadavre au Moyen-Âge et puis on l'aurait torturé, enfin, ou un homme qu'on aurait torturé et on l'aurait transformé en un Jésus. Mais alors, il a fallu copier quand même toutes les caractéristiques qui apparaissent déjà dans les pièces de Justinien et dans les premiers tableaux de représentation du Christ, les icônes du Sinaï, par exemple, qui sont très, très parlantes. Donc voilà, donc le STURF, cette équipe américaine, a fait un progrès considérable. Et puis est venue en 1988 des analyses très controversées du carbone 14, faites à la demande du cardinal Custode Balestrero, en accord avec le Saint-Siège, qui était donc propriétaire à ce moment-là du linge. Et là, on est tombé sur une fourchette médiéval, 3 laboratoires, Zurich, Tucson et Oxford en Angleterre, Tucson en Arizona, arrivent à cette fourchette de 1260-1390. Au début, donc, tout le monde a été saisi de stupeur, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, mais il faut peut-être on accepte le verdict de la science, parce que les radiocarbonistes n'ont pas voulu s'entourer des gens du STURP qui étaient prêts à faire d'autres analyses en accord avec eux. Ils disent non, c'est nous qui faisons tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Ils n'ont pas respecté le protocole qui avait été défini. On fait un protocole avec des analyses en aveugle, c'est-à-dire aucun des laboratoires se communique les renseignements. En fait, rien n'a été suivi parce que ces laboratoires, on ne peut pas mettre en doute leur honnêteté, mais ils avaient une peur bleue de se tromper, de se planter, excusez-moi l'expression, ce n'est pas ces points le mot, mais donc en fait, ils sont parlés. Voilà. Après l'instant de sidération qui a saisi le monde entier, parce que ce linceul, il a une renommée mondiale. On a commencé à se poser des questions. Les statisticiens sont emparés des quelques chiffres qui ont été publiés dans la revue Nature en février de 1989. Et il n'y a jamais eu de publication de tous les résultats complets. Mais à partir simplement de ces chiffres, on s'est aperçu qu'il y avait une discordance déjà très nette entre les résultats d'Oxford et les résultats de Zurich et de Tucson en Arizona. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu qu'il y avait un gros problème. Et puis, en 2017, donc c'est tout récent, un jeune chercheur français, Tristan Casabianca, a finalement demandé au coordinateur, le British Museum, en vertu d'une loi britannique qui était passée, de donner les résultats bruts. Et le British Museum s'est exécuté. Et là, on voit qu'il y a une dispersion considérable. Donc, rien n'est fiable dans cette analyse de carbone 14. D'autant plus qu'un grand savant américain, Raymond Rogers, qui participait à la première équipe du STURP, lui est arrivé à la conclusion que les échantillons qui ont été prélevés ont été prélevés dans une zone de ravaudage. Donc, on avait inséré des fils de nouveaux, de sorte qu'on arrive à une datation faussée. Voilà. Tout récemment, pour finir là-dessus, puisque je crois que le temps passe.
Il reste 2 minutes.
Tout récemment, en mois d'avril 2022, le professeur Liberato De Caro de l'Institut Cristallographie de Bari, rattaché au CNRS italien, donc ce n'est pas un personnage fantaisiste, a effectué des travaux en liaison avec le professeur Fanti, grand spécialiste du SWER de Padoue. Et il est arrivé par une nouvelle méthode de datation au rayon X, un grand espace, à une date du 1er siècle. On a d'autres éléments qui nous conduisent à dire que c'est bien le linceul de Jésus. C'est pas seulement un linge du 1er siècle. C'est que nous voyons des inscriptions le long du visage. Ça, c'est une équipe française, André Marion de l'Institut d'Optique d'Orsay, qui est décédé aujourd'hui, mais enfin, je lui ai parlé. Lui-même était agnostique, d'ailleurs, il me l'a dit. Il a vu ce qu'il appelle des fantômes d'écriture à la suite d'un programme informatique éliminant les effets de trame. Parce qu'on peut toujours lire tout ce qu'on veut, évidemment, sur un linge qui a été tissé de cette manière. Et on voit donc des inscriptions « Nazarenos » en trop grosse écriture, « Innech » les restes probablement d'une inscription qui aurait été écrite sur une bande par l'huissier chargé de fermer le tombeau, In Necem Ibis, qui était une des deux formules utilisées par les Romains, à la mort tu iras, ou In Crucis Ibis, à la croix tu iras. Donc c'est In Necem Ibis. Et puis on voit aussi sous la barbe, cette barbe bifide dont je vous ai parlé, Jesus, qui serait peut-être les restes de Jésus, Jesus, le Nazaréen. Donc tout cela authentifie absolument ce linceul. Il y a même une pièce, même deux pièces de monnaie, mais une qui est très plus facile à lire. Et cette pièce, c'est un lepton de Ponce Pilate qu'on aurait posé sur les yeux au moment de la mise au tombeau. Comment il se reproduit sur le linge, on ne sait pas. Mais on peut voir Tiberius Caesaros, Tibère César. C'est un lepton qui a été frappé, les numismates nous le disent, entre l'an 29 et l'an 31. Donc comment voulez-vous dater mieux que tous ces éléments-là le sphère de Turin? Donc c'est pour ça que, pour moi, il est très clair qu'il n'y a plus de débat sur l'authenticité du linceul depuis tous ces travaux, depuis toutes ces recherches qui sont multiples. Vous en trouverez d'autres exemples dans mon livre qui malheureusement est épuisé. Là, il n'y en a plus. Donc, si vous l'avez, très bien. Sinon, il faudra vous le procurer.
Il y a la FNAC, il y a Vazone, il y a tous ces gens-là. Mais non, là, tous les libraires. Et les libraires, voilà. Bien sûr.
Donc, il n'y a plus de doute possible. C'est pour ça que mon éditeur a mis, comme Bordeaux, l'enquête définitive. Alors, tout le monde dit, mais attention, bien sûr qu'il y aura d'autres livres sur le linceul, mais je pense qu'il y a un effet de cliquet. On ne peut plus revenir en arrière. Ce n'est plus possible. Le linceul, ce n'est pas simplement une simple croyance. C'est une conviction profonde, fondée scientifiquement. Le linceul est bien celui de Jésus de Nazareth. Alors après, pour les croyants, ça pose quelques problèmes. Parce que, et pour les incroyants aussi, je veux bien le reconnaître, puisque, et je vais finir là-dessus, nous ne savons pas et nous ne pouvons pas comprendre comment le corps a disparu de l'intérieur et comment on peut voir aucune trace de décomposition du corps, de l'homme, du linceul, et aucune trace d'arrachement des caillots de sang. Et il y en a énormément, puisque on voit 120 coups de fouet, une flagellation à la romaine, terrible, et puis les caillots de sang, des clous aux pieds, et puis à une des mains, puisqu'on voit qu'une des mains. Donc c'est un mystère, comment l'homme a disparu. Et là, évidemment, pour les croyants, c'est pas une preuve de la résurrection, disons. Bien sûr, il n'y a pas de preuve pour... On peut comprendre la résurrection quand on est croyant que dans la foi et une adhésion pleine et entière à la vie de Jésus de Nazareth, mais ça pose des questions. Voilà.
C'est un fait supplémentaire, en tout cas, on peut dire.
Voilà.
Je vous conseille d'ailleurs de lire le Jésus, votre excellent Jésus, d'abord ou avec ou après, enfin en tout cas en même temps, le Saint-Suaire de Turin. Vous avez fait exprès d'écrire le Saint-Suaire de Turin. Vous auriez pu écrire le Suaire de Turin.
Bah, c'est le nom qu'on donne à nom, Turin, donc d'accord. J'ai dit le Saint-Suaire de Turin.
C'est parfait.
Jean-Christian, on dit le linceul de Turin et puis le Saint-Suaire de Turin, c'est un nom qui vient du Moyen Âge. Oui.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Christian Petit-Fils. On n'a pas le temps pour les questions. Malheureusement, c'est frustrant. Voilà la fin de ce numéro d'Expresso. Retrouvez toutes nos interviews sur timelinepodcast.fr et sur toutes les plateformes de podcast. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec un nouvel invité.